La matinale qui progresse d'ailleurs, merci aux auditeurs, y compris du week-end qui nous écoutent, la matinale a beaucoup progressé lors de la dernière vague médiamétrie. Je referme cette parenthèse d'autosatisfaction. Que dit le rapport sur les risques mondiaux?
Pas mal de choses assez intéressantes. Et la première est que le niveau d'inquiétude monte. Plus de 50% des répondants prévoient un climat international agité, voire dangereux, dans les deux prochaines années. C'est 36% de plus que l'année dernière. Deuxièmement, les menaces changent. Félicite ou qu'on s'en désole, les risques environnementaux perdent du terrain, ou en tout cas sont moins présents dans l'esprit de nos leaders. Certes, les phénomènes météo extrêmes appartiennent toujours au top 5 des risques perçus, mais ils perdent une place. Ils étaient numéro 2 l'année dernière. Ils sont désormais numéro 3. Tandis que la pollution est rétrogradée de la 6e à la 9e place et la perte de biodiversité recule de 5 places.
Alors quelles sont donc les principales menaces pour l'humanité selon Davos?
Je vous livre le top 5. La désinformation en numéro 5. La polarisation de nos opinions et de nos sociétés civiles en numéro 4, les phénomènes climatiques extrêmes en numéro 3, les conflits interétatiques en numéro 2 et tadam en numéro 1, la confrontation géoéconomique.
Mais qu'appelle-t-on confrontation géoéconomique?
Eh bien, le rapport l'explique. C'est l'usage agressif des sanctions et des droits de douane qui déstabilise l'économie mondiale et empêche la coopération internationale. Bref, si vous voulez lui donner un nom, c'est Donald Trump. C'est officiel, David. Pour les puissantes Davos, le risque numéro 1, c'est le président des États-Unis.
Eh bien, on verra ce qu'il pense de cette distinction, puisque Donald Trump est l'invité d'honneur du sommet cette année. Merci Romain. Et je rappelle que s'abonner à Time to Sign Off, votre lettre quotidienne de résumé de l'information, c'est gratuit et c'est très simple, et souvent drôle. Il suffit de taper TTSO dans votre moteur de recherche préféré et d'entrer votre adresse mail dans la page d'inscription. À la semaine prochaine, Romain.
À la semaine prochaine, David.
Tout de suite, ces commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova.
C'était Tout de suite l'info avec Romain Dessalle et David Abiker sur Radio Classique. Chaque lundi, retrouvez David Abiker dans la newsletter quotidienne Time to Sign Off.
Radio Classique.
8h, 9h, commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va évoquer exclusivement l'Iran aujourd'hui. L'Iran et les soubresauts de la révolte dont on a pensé un temps qu'elle pouvait mettre à bas le régime des Mollahs et qui, pour le moment, semble revenir à un cas de figure déjà connu. Plusieurs révoltes ont eu lieu récemment. Le point culminant de ces révoltes, c'était Femme, Vie, Liberté, il y a de cela 2 ou 3 ans déjà maintenant. Et là, on a assisté à un bain de sang effroyable qui semble avoir fait reculer la révolte. On va voir tout cela avec un spécialiste de l'Iran, Camille Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Camille Alexandre, vous êtes chercheur, en tout cas spécialiste de relations internationales. Vous connaissez bien cette région. Vous avez séjourné dans divers pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et vous êtes considéré comme un expert de l'Iran, de ce pourquoi vous êtes au micro aujourd'hui avec nous, alors que sortent 2 livres de vous-même, l'un qui s'intitule « Le régime iranien à livre ouvert », creuse au fond l'idée même de ce que c'est que le régime des Mollahs, nous allons y revenir, c'est édité chez Odile Jacob, et l'autre qui s'intitule « Le Proche-Orient iranien », les 2 livres sortent dans le même moment, et c'est bienvenu parce que ça nous permet d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Juste un mot sur l'actualité la plus immédiate, c'est-à-dire cette flambée qui a laisser penser un moment que les Mollahs pouvaient cette fois être renversés, alors qu'on sait que à chaque fois qu'il y a des votes au fond, les Iraniens expriment le fait qu'ils sont, les Mollahs sont aujourd'hui minoritaires, semble-t-il. En tout cas, c'est du moins ce que l'on peut tirer des différentes élections qui ont eu lieu. Et puis il y a eu ces déclarations de Donald Trump disant allez-y manifester, nous arrivons. Enfin, en gros, la cavalerie arrive. Puis finalement, il a fait demi-tour littéralement. Et donc, considérer que le bain de sang étant interrompu, arrêté en tout cas, il n'y avait plus de raison de frapper l'Iran. Alors, on reviendra un petit peu sur tous ces épisodes. Mais au point de départ, juste en introduction, avant d'aller plus loin sur la nature du régime iranien, comment regardez-vous cette séquence qui a vu cette révolte, cette fois, prendre une ampleur inédite par rapport aux précédentes très fortes qui interviennent de façon maintenant assez régulière? Et est-ce que la messe est dite ou est-ce qu'il y a encore des soubresauts à attendre, Camille?
Alors, je pense que la première chose, c'est que la messe n'est pas dite, dans le sens où il y a toujours un porte-avions, l'USS Lincoln, qui est en route vers l'Iran, et donc les Américains, l'administration Trump, continuent à faire monter la pression, même si effectivement il n'y a pas eu l'intervention américaine que les manifestants iraniens espéraient. On est passé très près, si on en croit les rapports de presse qui nous reviennent. On est passé très très près d'une intervention, et il semble que il y a eu une intervention de nombreux acteurs régionaux qui ont œuvré à dissuader Trump de lancer cette frappe. Pour autant, l'idée d'une frappe ou l'idée d'une intervention n'est pas complètement écartée, puisque, comme je disais, le porte-avions est toujours en route. Je pense que la séquence démontre la divergence, ou en tout cas le fossé qui existe entre les aspirations des manifestants d'une part et les intérêts de l'administration Trump, et notamment les intérêts pour cette région d'autre part. Trump, à mon avis, ce que ça montre, c'est que Trump a une aversion pour les changements de régime, pour les changements de régime brutaux. En fait, il y a eu un moment où les manifestants iraniens se sont pris de beaucoup d'espoir et de courage. Il y a eu un tournant dans les manifestations. Ce tournant, ça a été l'opération militaire américaine contre le Venezuela, contre Nicolas Maduro, qui a été prise certainement à tort au départ pour une intervention américaine visant un changement de régime au Venezuela. En réalité, c'est le contraire qui s'est passé. En réalité, Nicolas Maduro a été extirpé, exfiltré par les forces spéciales américaines, et précisément, tout le reste du régime vénézuélien est resté en place. Non seulement il est resté en place, mais il est aujourd'hui l'interlocuteur principal de l'administration Trump, et ce que vise cette administration Trump, ça n'est pas un changement de régime au Venezuela, c'est tout le contraire, c'est que ce régime qui reste en place modifie ses orientations stratégiques. Et donc, on peut penser que ce qu'il souhaite pour l'Iran, c'est la même chose, que le régime iranien change sa stratégie, change ses orientations stratégiques, modifie ses politiques, mais que cela ne passe pas nécessairement par un changement de régime, par la chute du régime de Mollah, cela se trouve être les revendications de plus en plus pressantes, de plus en plus vocales des manifestants en Iran.
Jean-Claude Casanova. Oui,
mais si on suit votre raisonnement, si au fond l'Amérique, les États-Unis veulent que le régime iranien corresponde à leur souhait, il y a deux points dans lesquels ils veulent intervenir. Ils veulent que le régime iranien cesse d'être l'adversaire irréductible d'Israël et l'organisateur, d'une certaine façon, de la pression qui s'exerce sur Israël, comme ils l'ont fait par l'intermédiaire du Hamas et du Hezbollah, etc., d'une part, et d'autre part, l'Iran renonce à son projet nucléaire militaire. Alors, compte tenu de ce qu'est la nature du régime, est-ce que ce sont des objectifs accessibles? Parce que ce qui m'a toujours étonné dans le régime iranien, c'est pourquoi est-il devenu l'adversaire irréductible d'Israël, alors que dans l'Antiquité, il y a une relation amicale, si j'ose dire, entre le judaïsme antique et la Perse, et que d'autre part, dans la Perse moderne, les Juifs avaient leur place, ils n'avaient pas quitté, ils ont quitté les pays musulmans arabes, mais ils n'avaient pas quitté l'Iran, il y avait une représentation parlementaire juive, etc., et pendant la guerre avec l'Irak, Israël a soutenu l'Iran contre l'Irak. Donc pourquoi, brusquement, le régime iranien devient le fer de lance absolue hostile à Israël, et est-ce qu'il est accessible comme résultat? Est-ce que l'Amérique est assez puissante pour tourner le régime iranien de ce point de vue?
Camille Alexandre.
Vous avez tout à fait raison. La première partie de votre question sur est-ce que les objectifs de l'administration Trump sont réalistes, je pense que vous mettez le doigt en fait sur une tactique, une méthode du régime iranien qui a fait ses preuves en fait depuis 40 ans, qui est celle de gagner du temps. Et donc ils ont gagné du temps dans tous les domaines. Ils ont gagné du temps notamment sur le dossier nucléaire. On pourra y revenir si vous souhaitez. Dossier nucléaire où en fait on voit très bien qu'il y a une trajectoire ascendante clairement ascendante et qui ne reflue jamais depuis 20 ans du programme nucléaire iranien, et ce malgré la conclusion de l'accord nucléaire et malgré toutes les disponibilités à l'ouverture et au dialogue et au compromis qui ont été affichés par les Iraniens. Et donc cette disponibilité au dialogue qui est affichée est souvent affichée pour gagner du temps. Donc la question aujourd'hui, c'est ça, c'est est-ce que les Iraniens sont en train de faire plaisir à Trump en affichant des concessions, et donc notamment les concessions, les dernières concessions qui sont affichées depuis 2 jours, c'est que les peines de mort qui ont été requises, on parle quand même de 800 personnes a priori qui seraient condamnées à mort, les peines de mort qui ont été requises ne seront pas exécutées. Et donc Trump s'en félicite, et il a communiqué là-dessus en disant il n'y aura pas d'exécution. Et donc, on revient en arrière. Donc la question est celle-ci. Est-ce que, comme auparavant et comme sur d'autres dossiers, les Iraniens sont en train de gagner du temps, et est-ce qu'ils finiront par exécuter les gens qui ont été condamnés à mort plus tard, quand la pression sera retombée et que l'œil médiatique ne sera moins sur l'Iran qu'auparavant ? La deuxième partie de votre question sur le philosémitisme traditionnel iranien, ça c'est très intéressant. Effectivement, non seulement il y avait un vrai philosémitisme, mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que ce philosémitisme iranien est mentionné même dans la Bible, avec notamment l'épisode le plus connu, qui est celui de donc Cyrus le Grand, qui est le fondateur de l'Empire Perse, fondateur de la dynastie achéménide, et qui est cité dans la Bible comme loin de Yahvé, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a été celui qui a libéré les Juifs de Babylone, qui étaient en captivité à Babylone sous Nabucodonosor. Il les a libérés, et non seulement il les a libérés, mais il leur a permis de retourner à Jérusalem, et donc de mettre fin à l'Exode, et en plus, il leur a permis de reconstruire leur temple, qui a été ensuite détruit une nouvelle fois par les Romains. Et donc, Cyrus est considéré comme un bienfaiteur par les Juifs, et cela au plan même théologique.
Et donc, l'hostilité à Rome est commune, si j'ose dire, aux Persans et aux Juifs.
Tout à fait. Le Rome qui a été un ennemi pendant très longtemps de l'Empire perse. Et donc, ce philosémitisme est très ancien, a des racines très anciennes et continue dans l'histoire de la Perse. Et effectivement, il y a une rupture majeure au moment de l'avènement de la République islamique, parce que la République islamique choisit de faire d'Israël, et qu'ils appellent l'entité sioniste à partir de ce moment-là, de faire d'Israël leur ennemi principal. Pourquoi ? Parce que ils estiment qu'Israël occupe la terre sacrée de l'islam, et notamment la partie la plus sacrée du Dar al-Islam, de la terre d'islam, qui est Jérusalem et la Palestine. Il se trouve que quand les Iraniens, quand les roménistes arrivent au pouvoir, leur révolution n'est pas considérée par eux comme chiite. C'est une révolution qui est islamique et qui a vocation à devenir mondiale. Et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits de Roménie, qui sont composés dès avant même la révolution, notamment dans son ouvrage majeur, Le gouvernement islamique, où il clame que la révolution islamique doit advenir quelque part dans la terre d'islam pour ensuite s'étendre à toute la terre d'islam, à tout le Dar al-Islam, et ensuite, à partir de là, s'étendre au monde entier. Et la première cible au sein du Dar al-Islam, c'est évidemment la partie du Dar al-Islam qui est occupée, et qui est occupée par des sionistes, et donc qui est ils appellent ça une tumeur cancéreuse, ça c'est un vocable qui est constant aussi dans l'histoire de la République islamique, une tumeur cancéreuse au sein du Dar al-Islam, et dont il faut se débarrasser, et il estime même que s'en débarrasser est un devoir religieux, c'est un devoir religieux pour tous les musulmans doivent prendre les armes pour se débarrasser de cette tumeur cancéreuse en terre d'islam, et récupérer la sainteté du warf de la Palestine, le warf c'est-à-dire un bien pieux qui appartient uniquement aux musulmans et qui ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et donc, à partir de là, Israël devient l'ennemi héréditaire.
Ça, c'est au fondement, donc, de toute façon, de la République islamique et de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Quand il y a des épisodes comme ça de révolte, la question qu'on se pose, c'est quels sont les rapports de force entre les différentes entités, s'il y a rivalité ou bien possibilité pour ceux qui se révoltent de s'appuyer sur telle ou telle partie du pouvoir. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que ce qui est affiché, en tout cas, c'est toujours quelque chose d'assez cohérent et d'assez soudé, en fait, autour du guide suprême, il faut toujours rappeler que le guide suprême a tous les pouvoirs et que c'est lui qui a la vérité du pouvoir, parce qu'il y a une élection présidentielle, l'élection d'un président qui n'a prise sur rien. Il y a un gouvernement, mais j'allais dire qui s'occupe vraisemblablement de l'intendance, mais qui ne décide pas. Donc, est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'il y a des entités au sein de cette constellation, les gardiens de la révolution, l'armée elle-même, qui peuvent à un moment être en dissidence et faire triompher la révolte, ou le bloc est si solide, Camille Alexandre?
Il y a effectivement divers courants au sein de la République islamique, des courants qui peuvent être d'ailleurs divergents, et il y a par exemple une presse qui n'est pas libre mais qui est très plurielle. Et donc il y a beaucoup de journaux qui ont des sensibilités très différentes que vous trouvez librement en achat dans la rue en Iran. Et donc il y a des journaux dits conservateurs, réformateurs, ce que vous voulez, et tous ces journaux-là trouvent à s'exprimer. Au sein du système politique, c'est la même chose. Il y a des courants qui trouvent à s'exprimer. Mais en effet, il y a le guide suprême en haut. Et ce guide suprême a une autorité qui est dite absolue. Et ça, c'est inscrit dans la constitution de la République islamique. Et Khomeini lui-même a renforcé ça au cours de la seule révision de la constitution qui a eu lieu juste avant son décès. Il a renforcé encore le pouvoir du guide. Et donc, le guide laisse s'exprimer les diverses tendances jusqu'à ce qu'il décide qu'elles ne puissent plus s'exprimer. Et donc, en gros, quand on passe la ligne rouge, il y a en général un retour de bâton. Et par exemple, je mentionnais les journaux, des journaux qui ferment parce que le guide suprême et le bureau du guide suprême le décident. Et donc, effectivement, cette pluralité, on peut avoir le sentiment d'une pluralité vue d'Occident, mais effectivement, cette pluralité, en réalité, on lui laisse libre cours jusqu'à un certain point. Elle peut même être orchestrée, puisque ça peut être dans l'intérêt du guide suprême de démontrer qu'il y a une pluralité dans certains domaines, mais elle a une limite. Et cette limite, elle est déterminée par le guide suprême et par lui-même. Et
donc, on voit surtout les limites. D'ailleurs, je pense au cinéma iranien, qui est quand même d'une qualité exceptionnelle, et où les cinéastes, pour continuer leur travail, soit en sont empêchés parce qu'ils sont en prison, soit sont obligés de s'exiler. Donc, il y a zéro pluralité, en fait, dans l'esprit du régime.
Tout à fait. Et en fait, pour aller dans votre sens, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui sont récupérés par la République islamique parce qu'ils sont talentueux et pleins de succès, et donc la République islamique, quand elle estime que ça va dans son sens de se glorifier de talent à partir du moment où ils ne tapent pas sur la République islamique, ils n'hésitent pas à les ramener dans leur giron. Donc pour revenir aux élections que vous mentionniez, évidemment c'est un point très important. On dit que il y a un président qui est dit réformateur, et donc ça fait contrepoids au guide suprême. En réalité, absolument pas. Quand vous regardez la manière dont se passent les élections en Iran, elles sont complètement verrouillées. C'est-à-dire que tout le monde peut présenter une candidature aux élections présidentielles, ça pose pas de problème. En revanche, toutes les candidatures, leur intégralité, sont screenées par le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est un organe théocratique où siègent uniquement des religieux, dont le président est nommé directement par le guide suprême. Et donc ce Conseil des gardiens de la Constitution va regarder chacune des candidatures et va l'accepter ou la refuser. Et donc, dans l'histoire, en réalité, il y a eu, par exemple, au moment de l'élection d'Ebrahim Raisi, le président précédent, avant Massoud Pezeshkian, la candidature d'Ebrahim Raisi a été voulu par le guide suprême. Il voulait que Ebrahim Raisi soit élu président. Et donc, pour cela, pour arriver à ce résultat, le Conseil des gardiens de la Constitution a rejeté certaines candidatures, y compris des candidatures de conservateurs, y compris des candidatures de gens très proches du régime, par exemple celle de Ali Larijani, qui est aujourd'hui le conseiller principal du guide suprême, qui ont été écartées pour laisser la voie libre à la seule candidature que le régime voulait voir aboutir. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi pour la candidature de Massoud Pezeshkian, en réalité. 2 ans auparavant, pendant l'élection d'Ebrahim Raisi, on empêche les plus durs de concourir pour que Ebrahim Raisi soit élu. 2 ans plus tard, c'est l'inverse. On permet à tous les réformateurs de candidater, parce qu'à ce moment-là, le guide suprême souhaitait qu'un réformateur soit élu président de la République. Et c'est ce qui s'est passé avec Massoud Pezeshkian, qui a en effet été élu avec la bénédiction du guide suprême.
Lequel président a été victime d'un accident d'hélicoptère?
Président Ibrahim Raisi, oui, en 2024.
Voilà, et donc il a probablement été éliminé. Enfin, on ne sait pas trop, parce que ça reste très obscur.
Ça reste très obscur, en effet.
En tout cas, mais donc c'est une pure façade qui est toujours, selon vous, destinée à gagner du temps, en fait. Vis-à-vis de l'extérieur, j'entends.
Tout à fait. Alors, pas nécessairement gagner du temps, même si c'est en effet une tactique, comme je disais, qui a été mise en œuvre avec constance depuis 40 ans. Mais en tout cas, répondre à certaines aspirations. C'est-à-dire que si Massoud Pezeshkian est élu à ce moment-là, c'est précisément parce qu'il y a Femme, Vie, Liberté, parce qu'il y a un contexte régional qui met énormément de pression sur les Iraniens, sur le régime iranien, et un contexte intérieur également qui met énormément de pression sur le gouvernement et sur le régime. Et donc, pour donner un petit peu d'air, le guide suprême souhaite que Massoud Pezeshkian soit élu. Mais c'est pas pour donner un petit peu d'air aux Iraniens, à la population, c'est pour donner un petit peu d'air au régime.
Mais quand on l'observe comme ça, c'est un régime dans lequel il y a une extraordinaire contradiction, parce que c'est certainement dans le monde musulman l'endroit où il y a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs savants, les meilleurs artistes au point de vue du cinéma, etc. Donc l'Iran est dans l'intérieur du monde musulman la société la plus moderne, la plus proche du monde moderne occidental. Donc ça doit créer une tension, parce que disons, dans ce qui forme un médecin, un ingénieur, un spécialiste nucléaire, etc., il est évident que c'est contradictoire avec ce régime totalement théocratique. Donc il y a, et d'autre part, compte tenu des sanctions occidentales à l'égard de l'Iran à cause du nucléaire, il y a une économie qui marche mal, c'est-à-dire que la population iranienne n'a pas les satisfactions économiques que sa productivité latente permettrait. Normalement, les Iraniens devraient avoir un niveau de vie supérieur à celui qu'ils ont. Et donc, cette tension entre le régime théocratique et la nature de la société et la situation de l'économie devrait, à l'intérieur du sommet, créer des tensions, des divergences politiques et une possibilité d'éclatement. Est-ce que vous croyez qu'il y a des fissures internes dans le régime qui le rendent vulnérable? Parce que si on se met du point de vue de l'Occident ou du point de vue des Américains, quelle est la meilleure attitude possible? Est-ce que il faut fracturer le régime par l'intervention, ou au contraire, il faut le laisser se développer économiquement pour qu'il se fissure lui-même?
Camille Alexandre.
Alors, la question de la modernité que vous soulevez est très intéressante, parce que effectivement, de l'extérieur, on a l'impression, et c'est vrai, qu'il y a une vraie envie de modernité au sein de la population iranienne, qui est très jeune et très éduquée, y compris les femmes d'ailleurs, et ça d'ailleurs, c'est aussi une réussite finalement du régime de la République islamique, qui a pris un petit peu la continuité du régime du Shah auparavant, qui avait comme objectif d'émanciper les femmes. La République islamique a poursuivi ça, mis à part tout ce qu'on sait évidemment sur le voile obligatoire, etc. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens éduqués, de jeunes éduqués, de femmes éduquées. Et donc tous ces gens-là, effectivement, ont une soif de modernité, une soif d'Occident qui est d'autant plus forte depuis l'explosion des réseaux sociaux. Et chaque Iranien a dans la poche un téléphone qui est une fenêtre d'ouverture sur le monde. Et donc cette soif de modernité, vue de l'extérieur, elle peut paraître antinomique avec l'essence même du régime iranien, qui à ses fondements est totalement anti-moderne. C'est-à-dire que la révolution roméniste est précisément une révolution réactionnaire face aux politiques de modernité du Shah. C'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a notamment ce qu'on appelle à l'époque du Shah la révolution blanche, qui est une révolution moderniste, d'émancipation des femmes, d'émancipation de leur statut, d'émancipation de l'école. Il y a ce qu'on appelle une armée du savoir, qui est censée aller dispenser les savoirs élémentaires partout dans le pays, qui est déployée partout pour faire advenir un Iran moderne. Et en fait, le Roménie se bat contre ça, parce qu'il estime que la modernité est une infiltration, nofouz en persan. Pour lui, c'est une infiltration. La modernité, il y a un amalgame entre la modernité et l'Occident. La modernité ne peut que être occidentale, donc la modernité ne peut que être une infiltration. C'est pas que roméniste d'ailleurs ce concept, c'est aussi un concept qu'on retrouve partout chez les frères musulmans, dans toute la matrice intégriste islamiste. Et donc, il faut se battre contre la modernité. Et donc, c'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il y a une dichotomie entre le peuple et le régime. Mais en réalité, de plus en plus, ce régime iranien a épousé la modernité, et y compris d'ailleurs dans son objectif de répression. On le voit, c'est très moderne ce qu'ils font. C'est-à-dire que le blocage d'Internet, ça, c'est pas la première fois qu'ils le font, ça fait quelques années, ça nécessite des moyens énormes, et surtout ça nécessite des ingénieurs qui permettent de concevoir un Internet qui est plus un intranet qu'un Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'il y a 2 ou 3 points de sortie uniquement dans l'Internet national iranien vers le monde extérieur. Et c'est pour ça qu'ils arrivent très facilement à couper ces points de sortie qui sont très limités. Et donc, il y a d'autres exemples comme ça. Le régime iranien a fait de la modernité, mais de la modernité islamique, une cause nationale. C'est le cas notamment pour les missiles balistiques. Pour eux, c'est une cause de fierté immense d'avoir des ingénieurs iraniens formés dans les universités iraniennes qui sont capables de concevoir des centrifugeuses, qui est de concevoir des missiles balistiques iraniens, de les exporter à travers la région, etc.
Nous continuerons cette discussion tout à l'heure avec Camille Alexandre, dont spécialiste de l'Iran. Pour l'heure, nous allons marquer un temps d'arrêt modeste pour un intermède publicitaire.
Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6000 euros d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1000 euros de prime reprise déduite et 5000 euros de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pensez à covoiturer.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non ? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon ?
Ah ben des lasagnes, c'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait, on passe par le marché d'abord et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour bénéficier de nos services, rendez-vous sur O2.fr.
Envie de confort ? Envie de choix ? Envie de grande marque ? Envie de Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Néologie, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Radio Classique.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps ? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, données WLTP, en option selon version, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. Jusqu'à 9h, commentaires sur Radio Classique.
Nous sommes avec Camille Alexandre, auteur du Régime iranien, un livre ouvert aux éditions Odile Jacob, qui publie ce livre en même temps qu'un autre livre, d'ailleurs intitulé Le Proche-Orient iranien, toujours chez Odile Jacob, et vous êtes spécialiste donc de l'Iran. Nous étions en train de parler, vous répondiez à Jean-Claude Casanova qui vous interrogeait sur la modernité de ce système iranien. Comment regarder aujourd'hui c'est très difficile hein, d'évaluer ce qui peut advenir de cette révolte en cours. En tout cas, l'Iran semble-t-il s'est heurté d'abord le poids de l'Iran sur la région, alors même que l'ambition de ce régime est quand même au-delà de la région, est universaliste. Le poids de l'Iran dans la région s'amenuise. Ça, c'est une des conséquences du 7 octobre, vraisemblablement. Et en même temps, le président américain lui accorde un sursis. Donc, difficile d'évaluer la façon dont les choses peuvent peuvent se dérouler compte tenu du fait que la volonté, manifestement, le ras-le-bol des Iraniens était criant et partait de conditions économiques très difficiles. Est-ce qu'il peut y avoir malgré tout un débouché politique, Camille Alexandre?
Première chose, je pense qu'il est clair que le mécontentement populaire iranien prend de l'ampleur. Et ça, on le voit dans l'histoire longue. On le voit depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a une accélération des épisodes de protestation. Dès 1999, il y a des protestations. En réalité, j'allais dire même dès 1979. Le 8 mars 1979, journée de la femme, il y a une manifestation monstre de femmes iraniennes qui protestent contre l'obligation qui leur est faite de porter le hijab à cause de la révolution islamique. Dès la première année, dès l'an 1 de la révolution. Ensuite, vous avez donc la guerre Iran-Irak avec peu de manifestations puisqu'un contrôle social total. Mais vous avez en 99 une révolte étudiante. Vous avez évidemment le mouvement vert en 2009. Puis vous avez des manifestations monstres en 2017-2018 contre la cherté de la vie. Et surtout, vous avez des manifestations massives en 2019, en novembre 2019, qui sont dues à la hausse du coût, à la hausse du prix de l'essence, et qui sont réprimées dans le sang de manière extrêmement féroce, et avec notamment l'aide du blocage d'Internet. C'est la première fois que le régime iranien bloque Internet dans tout le pays pendant une semaine à trois semaines dans certaines régions. Ensuite, vous avez Femmes, Vie, Liberté en 2022, et puis maintenant, vous avez cette nouvelle révolte. Et entre-temps, il y a aussi eu des grèves massives, dont on parle pas, mais qui ont existé, qui continuent d'exister, notamment dans les régions pétrolifères, qui sont peuplées d'Arabes et non pas de Persans, notamment dans le Rouzestan. Et donc, en fait, on voit très bien qu'il y a de plus en plus de manifestations, de plus en plus de protestations, de plus en plus fortes, de plus en plus vocales, et surtout des manifestations qui ciblent de plus en plus le régime pour ce qu'il est. C'est-à-dire que les manifestations 2019, c'était des manifestations liées au coût de la vie. Les manifestations du mouvement vert, c'était des manifestations plutôt de la jeunesse urbaine éduquée. Les manifestations de Femmes, Vie, Liberté, c'était une manifestation au départ féministe, même si ça a pris une ampleur beaucoup plus grande par la suite. Aujourd'hui, on voit bien que tous ces mouvements convergent et que la détestation du régime qui est portée se propage un peu partout dans cette société. Et donc, effectivement, la question que vous posez de est-ce qu'il peut y avoir une issue politique, tout dépend de est-ce que cette contestation continue à se propager à des classes qui sont censées être la clientèle entre guillemets du régime. Ça, c'est une première question. Je pense que c'est possible. On voit notamment que les déshérités, qui sont censés être la clientèle première du régime de la République islamique, en ont marre et le font savoir. Et donc les manifestations contre la cherté de la vie, c'est ça aussi, c'est des gens qui sont des déshérités et auxquels la révolution islamique était censée apporter des réponses économiques et sociales. Ces gens-là estiment que leur vie économique et sociale n'a pas été améliorée, et donc ces gens-là se tournent de plus en plus contre la République islamique. Là, il y a une question aussi de au sein du régime, est-ce qu'il peut y avoir des fissures? Et là, je pense qu'on en on je suis pas certain qu'on en soit encore là. C'est-à-dire qu'au sein du régime, il y a notamment ce qu'on appelle le basij, la mobilisation. Donc les basij, ce sont des jeunes qui font partie du corps des gardiens de la révolution.
Ce sont des milices, en fait.
Exactement, ouais. C'est la milice. Et ce sont des jeunes. C'est eux, l'origine des basij, c'est qu'ils ont été envoyés sous les chars irakiens pendant la guerre Iran-Irak pour se faire exploser, notamment des jeunes de 13-14 ans, pour se faire exploser sous les chars avec une petite clé autour de cou, qu'on leur disait avant qu'ils partent que c'était la clé pour leur ouvrir les portes du paradis. C'est le début du martyr. Exactement, c'est le début du concept du martyr dans la République islamique, et promis un très grand avenir, évidemment. Et donc les Basiji sont devenus une caste privilégiée au sein du système. Et donc c'est eux qu'on envoie avec des barres de fer casser les genoux des manifestants dans les beaux quartiers. C'est eux qui sont à moto et qui se promènent dans les rues pour mater les jeunes Iraniens. Et donc ces gens-là, en fait, sont non seulement à la solde du régime, mais surtout ils estiment que c'est grâce au régime qu'ils en sont là. Si vous voulez, la révolution islamique, pour eux, c'est une revanche sociale. Et pas seulement en termes uniquement symboliques, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient rien sous le régime du Shah et qui sont devenus des gens très importants sous le régime suivant dans la République islamique, mais c'est aussi des gens qui bénéficient de prébendes et de choses très tangibles, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des accès privilégiés à l'université. Il y a des places qui sont des quotas pour les Basiji à l'université, il y a des quotas pour les familles de martyrs. Ce sont des gens qui ont un accès à une sociabilité très élargie au sein de la mosquée. Ce sont des gens qui ont trouvé une vie en fait et un sentiment d'existence, un sentiment de puissance en devenant Basidji et en se mettant sous la coupe de ce régime. Et donc ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à fraterniser avec les manifestants. Et c'est peut-être là, je pense, qu'il faut surveiller ce qui peut se passer. Et on a eu des rapports pendant Femme, Vie, Liberté, notamment, de jeunes Basidji qui auraient fait défection et qui se seraient mis du côté des manifestants parce qu'ils en avaient marre de taper sur des gens qui, en fait, dont ils se rendaient compte qu'ils étaient comme eux. Et donc, d'où la nécessité aussi de regarder de près ce qui se passe au plan socio-économique. Parce que si au plan socio-économique, les protestations des gens des manifestants iraniens commencent à converger avec une situation socio-économique qui est mauvaise aussi pour les gens à l'intérieur du régime, à commencer par les Basidji, alors là peut-être qu'il y a le début d'une fissure possible.
Jean-Claude. Oui,
parce que changement de régime, une révolution, il est rare que ce soit les manifestants qui l'obtiennent. La révolution peut venir soit d'une période de transition, quand un pouvoir succède à un autre pouvoir, il peut changer d'orientation, soit lorsqu'il y a fractionnement entre le pouvoir politique et les forces de sécurité. Actuellement, si vous voulez, il y a, enfin, ceux qui dirigent contrôlent la puissance, contrôlent la force. Et si la force échappe aux puissants, il y a possibilité de révolution, ou si le puissant se divise ou change. Et donc, est-ce que vous voyez apparaître vous pensez qu'il y a quand même des fissures qui apparaissent et qu'il suffit d'attendre? Parce que tout le problème est de savoir, est-ce qu'il faut maintenir les sanctions? Est-ce que l'intérêt de l'Occident est de maintenir les sanctions ou au contraire d'adoucir les sanctions de façon à ce que la société, en prospérant davantage, se fissure davantage?
Et question annexe, mais qui dépend de cela, sur l'issue politique éventuelle, on a vu ressurgir le fils du chat. Est-ce que ça a un sens pour ceux qui protestent de se rallier éventuellement à la figure du chat? Ou est-ce que c'est vraiment un phénomène, j'allais dire, plus intéressant en Occident qu'en Iran elle-même, Camille Alexandre?
Alors sur la question de la fissure à l'intérieur du régime, à ce stade on n'en voit pas. Et d'ailleurs je serais tenté de dire que suite au 7 octobre et notamment aux frappes israéliennes en Iran, on a vu l'ampleur de la pénétration israélienne au sein du système iranien, et donc on peut imaginer que les Iraniens ont mis un point d'honneur à se débarrasser des éléments corrompus et à restructurer leur appareil sécuritaire et à n'y mettre que des gens de grande confiance. On a vu par exemple, c'était avant la guerre des 12 jours, mais il y a eu l'inamovible Hossein Tayeb, qui était le chef des services de renseignement des gardiens de la Révolution, qui était un très très proche de Khomeini, quelqu'un qui était associé à toutes les décisions les plus stratégiques, les plus importantes, et donc il a été évincé justement après Femme, Vie, Liberté, quand on s'est rendu compte qu'il faisait pas l'affaire. Et donc, on peut imaginer qu'après la guerre des 12 jours, il y a eu le même souci de faire le ménage au sein du régime iranien, et notamment dans l'appareil sécuritaire, pour éviter justement toutes sortes de fissions que vous évoquiez. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et je dirais même qu'en réalité, c'est-à-dire qu'un changement de régime, une révolution peut advenir sans qu'il y ait des fissions, mais si vous voulez, si vous prenez l'exemple de la révolution islamique, justement, au moment du Shah, on estime que le point de bascule, le moment qui a fait basculer les choses, c'est quand l'armée régulière, notamment les cadets de l'armée de l'air, se sont déclarés neutres. Et donc ça voulait dire qu'en fait ils n'allaient pas réprimer les manifestants dans la rue, tout simplement. Et donc il n'y a pas eu besoin de fissure, il a juste eu besoin qu'il y ait une déclaration de neutralité. Donc voilà, je ne dis pas que ça suffirait en Iran, et encore une fois je ne vois pas de signe de fissure au sein du régime, mais effectivement c'est une chose à surveiller de près. Sur la figure de Reza Pahlavi, donc le fils du chat déchu, si vous voulez, si vous m'aviez posé la question il y a encore quelques années, j'aurais répondu quelque chose de différent. J'aurais répondu que c'est quelqu'un de très déconnecté du pays, qui n'y a jamais mis les pieds depuis qu'il l'a quitté. Je crois qu'il avait 18 ans quand il a quitté le pays avec son père, et donc qui est très éloigné des préoccupations des Iraniens et des préoccupations premières, c'est-à-dire pas uniquement politiques, mais aussi économiques, sociales. C'est quelqu'un qui vit à Washington, qui vit aux États-Unis, qui vit bien, paisiblement, et qui n'est pas confronté à ce ce que veut dire la République islamique dans le quotidien des Iraniens. Et donc c'est quelqu'un qui, pour cette raison, était perçu avec beaucoup de ressentiment par beaucoup d'Iraniens de l'intérieur. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même un peu le sentiment que les choses sont en train d'évoluer. Et on entend de plus en plus un discours au sein des Iraniens de l'intérieur, en Iran, qui disent « Eh ben en fait, si ça doit être lui, ben, que ce soit lui ». S'il y a personne d'autre comme alternative au Mollah, eh ben tant pis, on reprend pas la vie, on reprend la monarchie et on verra ensuite. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Et c'est évidemment lié au désespoir qui est de plus en plus grand au sein des Iraniens. Il y a aussi un autre élément peut-être qui a relié à celui-là, c'est que on entend aussi beaucoup, de plus en plus, des gens qui font état avec admiration du passé pré-islamique de l'Iran. Des chauffeurs de taxi qui expliquent que leur religion, c'est la religion du feu. En référence au zoroastrisme. Alors qu'ils sont pas zoroastriens, mais voilà, c'est une manière de s'identifier à un Iran qui n'est pas l'Iran islamique, qui n'est pas l'Iran des mollahs. Ça, c'est un discours aussi qu'on entend de plus en plus, qui est nouveau et qui est peut-être à relier aussi avec cette envie de monarchie en tant que régime alternatif potentiel à défaut de tout autre.
Par ailleurs, est-ce que dans ce tourbillon là que l'on observe, quels sont les alliés de l'Iran? Au point de départ, l'Iran a une ambition hégémonique. Cette ambition hégémonique, elle cherche à la traduire par ce que l'on appelait les proxys, c'est-à-dire des mouvements qui lui sont liés, voire qui obéissent aux instructions venues d'Iran. Et dans ces mouvements, il y a évidemment le Hezbollah, il y a évidemment le Hamas, etc. Et il y a eu le 7 octobre. Est-ce que le 7 octobre est considéré en Iran par les dirigeants iraniens comme... Est-ce que c'était considéré ex ante comme, j'allais dire, une manifestation de cette volonté hégémonique? Et est-ce que les conséquences du 7 octobre ne vont pas à l'envers vers un rétrécissement des ambitions possibles de l'Iran, manifestées par cette guerre des 12 jours d'ailleurs, qui a montré, au fond, qui a considérablement, semble-t-il, affaibli les défenses militaires de l'Iran.
Tout à fait. Alors, le 7 octobre, pour comprendre ce qui s'est passé et le lien avec l'Iran, c'est ce que je retrace d'ailleurs dans mon livre « Le Proche-Orient iranien », je pense qu'on fait, on se pose de mauvaises questions parfois en Occident en se disant ah mais le régime iranien n'est pas vraiment derrière le 7 octobre parce qu'il n'y a pas de smoking gun comme on dit, c'est pas eux qui ont voilà le Hezbollah, enfin le Hamas a agi tout seul sans que l'Iran soit au courant et donc l'Iran n'est pas vraiment derrière, etc. Je pense que la question se pose pas ainsi. En réalité, tous les mouvements de l'axe roméniste qu'on appelle à tort un axe chiite puisqu'il n'est pas chiite, c'est un axe qui en fait est l'axe des déshérités. Les déshérités, les mostazafines, qui est un concept coranique, en fait, ce sont des gens qui veulent prendre leur revanche sur les idolâtres, sur l'Occident, et donc il se trouve que ce concept de déshérité est un concept qui résonne particulièrement dans le chiisme pour tout un tas de raisons, y compris des raisons théologiques, puisque le chiisme est une religion du martyr, le martyr de l'imam Hussein. Et donc, être déshérité, c'est prendre sa revanche, et il se trouve que cet axe qui si vous voulez, qui avec en son sein des chiites, des sunnites, le Hamas et le djihad islamique, mais également des chrétiens, par exemple dans la mobilisation populaire irakienne, il y a une milice qui s'appelle les Babylioun, qui sont une milice chrétienne et qui sont très proches du régime iranien. Donc il y a tout un aéropage de gens qui ne sont pas chiites, mais qui se retrouvent dans la terminologie des mostazafines, qui est une terminologie à résonance chiite. Et donc c'est le guide suprême iranien qui est à la tête de ce réseau. Et donc tout ce système de déshérité, il a pour but, il est de ce qu'on disait au début de l'émission, de se débarrasser de l'entité sioniste, de la tumeur cancéreuse qu'est Israël dans le Dar al-Islam. Et donc pour ça, ils sont armés, financés, équipés par l'Iran depuis le tout début de la révolution islamique. C'est-à-dire qu'on dit que le Hezbollah est né en 1982 de l'invasion israélienne du Liban. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'avant 1982, il y a déjà des éléments qui sont constitutifs de ce qui va devenir ensuite le Hezbollah. Et donc, les Iraniens, les roménistes, envoient des gens former ces groupes, notamment l'organisation du djihad islamique, qui est le groupe fondateur de ce qui deviendra ensuite le Hezbollah. Ils sont formés, armés, dans les camps palestiniens notamment, puisque le Liban à ce moment-là est un laboratoire pour la résistance palestinienne, et ces gens-là sont formés auprès des Palestiniens dans les camps de la Beka notamment, dans l'est du Liban. Pourquoi ? Parce que c'est très proche d'Israël et parce que c'est un endroit où il y a la guerre civile et donc il y a peu de contrôle étatique.
Est-ce que vous voulez dire à ce moment-là que hors du chiisme, toutes les poussées islamistes ou mahdistes qui apparaîtraient sont attirées par Khomeini comme un aimant, si vous voulez. C'est comme si le super-islamisme des chiites actuellement attirait vers lui toutes les autres poussées islamistes qui apparaîtraient dans le monde musulman.
Camille Alexandre.
En tout cas, il est clair qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'islamisme chiite de type roméniste et l'islamisme sunnite.
Et les frères musulmans, par exemple, pourraient être attirés par...
Ah ben, il y a même une matrice commune. C'est-à-dire que les frères musulmans en Égypte sont la matrice originelle du roménisme, et notamment le Saïd Qutb, qui est le théoricien du djihad, du grand djihad, c'est-à-dire le djihad à l'extérieur, la guerre sainte, etc. C'est lui qui théorise ça en Égypte. Il est pendu pour ça par Nasser en 1966. Et c'est lui le grand penseur qui a été repris par les roménistes. Il est traduit en persan par Ali Khamenei, le guide suprême actuel. Et donc, il y a des incointances directes entre les frères musulmans dits sunnites et les chiites.
Autrement dit, quand les Occidentaux séparent absolument les sunnites et les chiites, ils se trompent d'une certaine façon.
Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, l'axe chiite n'est pas chiite. L'axe de résistance n'est pas chiite. De la même manière, la révolution islamique de 119 n'est pas chiite. Khomeini lui-même ne parlait jamais de chiisme, d'ailleurs. Il parlait de jafarisme, donc c'est-à-dire une cinquième école à côté des quatre écoles sunnites reconnues, une cinquième école juridique qui serait fondée donc par Jafar, qui est le sixième imam du chiisme duodécimain. Donc pour lui, c'est juste une manière différente de faire de l'islam, mais ça n'est pas une autre religion. Et surtout, la révolution qu'il met en œuvre est une révolution, à ses yeux, qui n'est absolument pas chiite, mais qui est islamique. Et cette révolution se trouve, donc elle est islamique et elle a vocation à être une révolution mondiale, et il se trouve qu'elle naît en premier en Iran. Pourquoi ? Parce que l'Iran est une terre d'islam particulièrement martyrisée, parce qu'elle est sous la férule de l'idolâtre du Tarout, comme ils disent, qui est le chat d'Iran, qui est la personne à abattre, parce que complètement occidentalisée, complètement modernisée, et donc une atteinte à l'islam. Et donc cette révolution, elle naît en Iran par contingence. Et d'ailleurs, Khomeini lui-même, au tout début de la révolution islamique, ne parle pas d'Iran. Pour désigner l'Iran, il parle de segments libérés de la terre d'islam. Et donc, évidemment, les segments suivants à libérer, c'est en premier lieu la Palestine, puis tout le reste de l'Idar al-Islam, voire la révolution mondiale, puisque cette révolution islamique est considérée, encore une fois, comme une révolution qui a vocation à faire naître l'homme nouveau. L'islam est une religion pour l'homme nouveau qui serait enfin en accord avec Dieu.
Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est une conséquence imprévue, en tout cas, du 7 octobre, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est que, au fond, la République islamique se trouve aujourd'hui très isolée et privée, au fond, de plus en plus de ses bras armés qu'étaient et qui restent encore en partie le Hamas et le Hezbollah. Donc, est-ce que ça n'est pas un des éléments qui peut pousser, je dirais, à ceux qui souhaitent la fin de ce régime, essayer de pousser un petit peu leur avantage, avec quels alliés d'ailleurs dans la région. On a vu que le bras de Donald Trump avait été retenu par l'Arabie Saoudite, notamment. Donc ça peut paraître surprenant vu d'ici, mais comment l'interprétez-vous?
Alors, effectivement, donc je disais que le 7 octobre, ça n'est pas un énième soubresaut du conflit israélo-palestinien. C'est la première fois que cette résistance islamique, qui est mise en place de manière très patiente, comme un étau autour de l'entité sioniste, autour d'Israël, cette résistance islamique, c'est la première fois qu'elle frappe directement en terre d'Israël, le sanctuaire du peuple juif. Et donc, c'est l'aboutissement, le 7 octobre, c'est l'aboutissement de la mise en place sous l'égide de la République islamique, de ce réseau de résistance hezbollahi autour d'Israël. Mais je pense qu'effectivement, le Hamas... Alors après, il y a la question de est-ce qu'ils ont agi seuls ou pas, ouais, etc. Bon,
en tout cas, pour vous, il y a une chaîne de commandement très claire entre le guide suprême, d'une part, et puis les actions du Hamas sur le terrain. Je veux dire, en tout cas, idéologiquement, c'est une
idéologiquement,
continuité.
Exactement. Est-ce qu'il y a une chaîne de commandement directe? Pas nécessairement. En tout cas, il y a une convergence, ce que le Hezbollah appelle une convergence des fronts. Il y a une idéologie qui est commune, qui est l'idéologie dite Hezbollahi. Le concept d'être Hezbollahi, c'est un concept coranique. Être Hezbollahi, ça veut dire être du parti de Dieu. Et donc le parti de Dieu, c'est le parti des victorieux, précisément dans la même idée qu'on doit se venger des idolâtres. Et donc ce parti Hezbollahi, et d'ailleurs le Hezbollah, il y a le Hezbollah libanais, mais il y a d'autres Hezbollah en Irak, etc. Et donc tous ces Hezbollah sont le parti Hezbollahi qui est remis au goût du jour par la révolution islamique. Et pour ce qui concerne certains de ces mouvements, et notamment le Hezbollah libanais, il y a pour le coup une chaîne de commandement directe directe. Et notamment Hassan Nasrallah était ce qu'on appelle le vakil, l'agent personnel du guide suprême Ali Khamenei, c'est-à-dire que c'était son représentant en terre libanaise, son représentant personnel. Et donc
qu'Israël a éliminé.
Et tout à fait, exactement, en septembre 2024. Et donc la question c'est ça, c'est il y a des groupes qui interviennent selon leur logique qui peut être propre, selon des considérations locales qui peuvent leur être propres, mais qui participent tous d'une même idéologie, de cette même idéologie Hezbollah, et qui sont tous financés, entraînés, comme je le disais, par la République islamique. Donc ensuite, à partir de là, est-ce que le Hamas agit seul ou pas? C'est une question, j'allais dire, subsidiaire en réalité. Mais ce qui est certain, c'est que dans la région, je pense qu'on n'a pas les dirigeants de cette région, et pas seulement les dirigeants de l'extrémisme, mais aussi les Arabes, les monarchies arabes sunnites, etc., n'ont pas pris au début la mesure de ce que ça signifiait le 7 octobre. C'est-à-dire que c'est le plus grand pogrom depuis la Shoah, c'est la première fois que des islamistes frappent en son cœur la terre d'Israël, c'est-à-dire ce qui était censé être le sanctuaire du peuple juif, impénétrable, inviolable. Et donc, ils n'ont pas pris la mesure de la réaction que ça allait susciter. Et la réaction que ça suscite, on en voit encore, elle n'est pas encore terminée. C'est-à-dire que ça a commencé avec la guerre à Gaza, ça se poursuit avec la guerre contre le Hezbollah, qui a eu la mauvaise idée de faire d'ouvrir un front de soutien dès le lendemain du 7 octobre avec Gaza. Ça s'est poursuivi ensuite, il y a eu la chute du régime syrien entre-temps, et ça se poursuit avec l'Iran, sans compter les Houthis yéménites qui sont aussi dans le viseur d'Israël. On le voit avec la reconnaissance du Somaliland qui se trouve très proche des côtes du Yémen et qui peut servir donc de base de projection opérationnelle pour une attaque contre les Houthis. Donc on le voit, Israël est déterminé à venir à bout de cet axe de la résistance, et donc à desserrer l'étau que cet axe de la résistance avait placé autour de lui. Et cette détermination-là, elle est extrêmement forte, elle a été depuis 2 ans très sous-estimée par nombre de dirigeants de cette région.
En tout cas, ça fait partie des enjeux de cette période et des enjeux de ce que pourrait être une nouvelle révolution en Iran qui changerait l'orientation donc du régime. Et là-dessus, je pense que tout le monde en est au même point d'interrogation.
Tout à fait.
Donc,
et vraisemblablement, Trump n'est motivé que par lui-même et par l'élection qui vient. Et donc, il interviendra s'il a le sentiment que ça accroît sa popularité.
Pour le moment, ça n'est pas le cas, mais on verra tout cela. En tout cas, merci Camille Alexandre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre chez Odile Jacob qui s'appelle « Le régime iranien, un livre ouvert », où vous passez en revue, en gros, tous les clichés ou tous les jugements que l'on peut avoir ou que l'on lit un peu partout sur l'Iran, notamment sur l'enjeu nucléaire. Est-ce que vraiment ils sont pour un nucléaire civil ou bien est-ce qu'ils ont vraiment des ambitions militaires, etc. Vous passez tout cela en revue, donc c'est très très passionnant. Et vous avez écrit aussi le Proche-Orient iranien, qui donc fait référence au 7 octobre et aux conséquences politiques du 7 octobre. Donc merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Et comme chaque samedi, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.
Franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de 3 rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henrique et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com.
Seuls mes cheveux sont gris, au Théâtre Libre à Paris. Une comédie romantique écrite et mise en scène par Wendy Beckett. Thibaut de Montalembert et Hélène Babu, entourés de personnages hauts en couleur, nous livrent un numéro de séduction décalé et plein d'humour. Une pièce pétillante et réjouissante à retrouver dès le 4 février en réservant sur le-théâtrelibre.fr.
Radio Classique présente Le Petit Pianiste de Morgan Raux et Julie Hanen, raconté par Guillaume Gallienne.
La porte du cinquième s'ouvre à la volée. Une vieille dame, assise dans un fauteuil roulant, un plaid improbable sur les genoux, apparaît à contre-jour.
Découvrez une tendre histoire d'amitié entre un petit garçon et une vieille dame réunis par leur amour de la musique. Le Petit Pianiste, un livre jeunesse aux éditions Nathan, en vente partout, avec CD audio et QR code inclus. Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters. Voyagez au cœur d'un monde où l'image et le texte se rencontrent et où chaque page est une célébration de la richesse du 9e art. Ce dictionnaire amoureux rend hommage aux dessinateurs et scénaristes à l'origine d'univers inoubliables, profondément ancrés dans notre imaginaire. Le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters aux éditions Plomb. En vente partout et sur radioclassique.fr.
Oh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6000 euros d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1000 euros de prime reprise déduite et 5000 euros de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Depuis plus de 30 ans, la maison de vente aux enchères Tajan vous accompagne dans la vente de vos objets d'art. Tableaux, mobilier ancien, design, vins, mode, bijoux et montres, nos expertises gratuites et confidentielles nous ont permis de découvrir de véritables trésors. Nos spécialistes sont à votre disposition pour estimer et vendre vos objets précieux. Pour les rencontrer, appelez Tajan au 01 53 30 30 30 ou rendez-vous sur tajan.com.
Radio Classique. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros, prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Bleu comme le monde, avec Caroline Forge sur Radio Classique.
En partenariat avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Bonjour, dès son enfance au Cameroun, Hubert Bayatoda a été confronté au problème de pénurie d'eau. Bien qu'habitant dans une zone pavillonnaire moderne, avec sa famille, ils ont parfois été sans eau courante pendant plus de 3 mois. Une problématique que le fondateur de Liquimitide a mis au cœur de sa vie professionnelle. En effet, l'entreprise qu'il a fondée en 2019 permet, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'optimiser la détection des fuites d'eau et donc la réparation ciblée des canalisations endommagées qui sont pléthores en France. Le fondateur et président de Liquimitide, Hubert Bayatoda, nous explique quelles réponses son entreprise fournit aux collectivités locales, soumises dorénavant à l'obligation de mieux gérer leur réseau d'eau.
Grâce à notre algorithme, nous on est capable d'isoler les 20 à 30% du réseau qui contiennent 80% des fuites. Et on s'est rendu compte que la performance d'un réseau nécessite une coordination de plusieurs actions de recherche de fuites et des actions de prévention. Je vais parler des chercheurs de fuites. On s'est rendu compte quand même que c'est les chercheurs de fuites qui trouvent les fuites. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a une vraie pénurie. Donc si vous êtes une collectivité, vous êtes très souvent en pénurie de main d'œuvre. Et donc, on peut intervenir sur un secteur de votre réseau et on s'engage à la performance. C'est-à-dire que le sprint, c'est un chercheur de fuites qu'on va dire, entre guillemets, augmenté, qu'on vous met à disposition, qui va travailler avec notre outil. Et le résultat, il est très simple. S'il ne baisse pas les pertes d'au moins 20%, il n'est pas rémunéré. Là, on permet de réduire les pertes en moyenne. Au début, on était à 30%. Là, notre moyenne est montée à près de 38%.
Depuis 2019, Liquimited a permis d'éviter la perte de plus de 8 millions de mètres cubes d'eau sur le réseau français, soit l'équivalent de la consommation de la ville de Metz. En plus de cet impact positif sur le réseau, l'entreprise permet également de mieux détecter les pollutions, qui sont l'autre enjeu majeur de la rénovation des canalisations. Hubert Bayatoda revient pour nous sur cet aspect.
En fait, on s'en est rendu compte que l'enjeu était multicritère, hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours la performance qui est le premier paramètre des décisions, mais les enjeux de pollution, notamment les CVM, qui sont dus à des canalisations en PVC posées avant les années 80. C'est-à-dire que si l'eau dans la canalisation reste pendant trop longtemps, il va polluer l'eau. Et donc, on a pu intégrer ces paramètres, ces concentrations liées au niveau de pollution, qu'on croise avec le risque. L'idée, c'est de permettre à une collectivité d'avoir un programme d'investissement qui permet de s'attaquer aux enjeux sanitaires sans faire de compromis sur la performance. Parce qu'il faut savoir que 30% du réseau de distribution est potentiellement affecté par cet enjeu de CN, donc c'est un enjeu de santé publique majeur.
Après une levée de fonds l'année dernière, l'entreprise connaît une forte croissance où chaque euro de chiffre d'affaires est corrélé à un impact environnemental clair. Aujourd'hui, Liquimited prospecte les marchés de même maturité comme l'Italie, l'Angleterre ou les États-Unis avant d'aller